Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Un roi sans divertissement, de Jean Giono. Un roi sans divertissement, écrit à l'automne 1946, commence comme un roman policier et témoigne de l'extraordinaire dynamique narrative de Giono. Le titre, Un roi sans divertissement, renvoie à la phrase qui clôt le roman et que Giono emprunte aux pensées de Pascal. Un roi sans divertissement est un homme plein de misère, indiquant ainsi l'interrogation moraliste de l'auteur, qui veut montrer que l'homme, pour sortir de son ennui existentiel par le divertissement, peut aller jusqu'à la fascination du mal. L'homme s'invente des divertissements, toutes sortes de distractions, d'amusements, pour ne pas se regarder en face, ne pas penser à sa mort, ne pas voir toutes les horreurs qu'il porte en lui. L'action du roman se déroule dans une région que Giono connaît bien, le Triévès, entre les massifs alpins du Vercors et du Dévoluy. Nous ne sommes pas dans la Provence lumineuse. C'est une montagne imaginaire où se produisent des meurtres étranges. L'action s'inscrit dans une période d'un peu moins de 5 années, rythmée par 6 hivers successifs de 1843 à 1848, et a pour axe le capitaine de gendarmerie Langlois qui s'installe dans l'auberge d'un village isolé par la neige, pour rechercher un tueur mystérieux, aux initiales MV, qu'il finit par abattre de 2 coups de pistolet dans le ventre. Ayant démissionné de la gendarmerie, Langlois revient ensuite au village comme commandant de louveterie et organise une chasse au loup qui rappelle la poursuite précédente. Il veut s'installer, se marier et participe aux fêtes locales, mais effrayé de sa fascination pour la beauté du sang d'une oie sur la neige, il se suicide en fumant un bâton de dynamite. Ce roman montre que Giono n'est pas simplement le chantre de la nature. Jean Giono est né à Manosque, dans l'ancien département des Basses-Alpes, aujourd'hui Alpes de Haute-Provence, le 30 mars 1895. Son père, cordonnier, anarchiste, amateur de lecture dont la Bible, était fils d'un Piémontais venu en France en 1831 pour s'engager dans la Légion étrangère. Sa mère était repasseuse et très catholique. Il est fils unique. Il entre dans une école religieuse, puis au collège de Manosque, où il sera un élève moyen. En 1911, son père étant tombé malade, il doit, pour aider à faire vivre sa famille, quitter le collège et entrer comme garçon de course dans une banque. Il y restera jusqu'en 1929, gravissant tous les échelons. C'est un passionné de lecture, et il découvre la littérature gréco-latine, Homère, les tragiques grecs, Virgile, les classiques français, et Cervantes. En 1914 éclate la guerre, où sera tué son meilleur ami. À la fin de mai 1916, il est envoyé au front. Il vivra Verdun, où il verra tomber nombre de ses camarades, puis le chemin des dames, le Kemmel. Bien qu'une fois commotionné par un obus et une autre fois légèrement gazé, il se tire de là sans dommage et sans galon, mais avec une horreur viscérale de la guerre qui ne le quittera jamais. Elle restera pour lui le mal absolu. Jean Giono épouse en 1920, après la mort de son père, Élise Morin, une jeune enseignante manosquine. Ils auront 2 filles. Autodidacte et imprégné des œuvres de la Grèce antique, il compose, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, des romans témoignant d'une foi inébranlable en la force de vie que porte la terre et les êtres qui en sont restés proches. C'est ce que relate Colline, son premier succès primé en 1929, puis un de Beaumugne et Regain. Jean Giono achète sa maison du Pareils, sur les pentes qui dominent Manosque. Il y vivra toute sa vie, la quittant assez rarement. C'est le voyageur immobile. À partir de 1934, on le retrouve pour quelques mois proche des communistes. À la déclaration de guerre, il se rend au centre de mobilisation de Digne. Cependant, à cause de son pacifisme, il est arrêté le 14 septembre 1939. Il est relâché après un non-lieu et libéré de ses obligations militaires. Il a beau être en contact avec des résistants, en septembre 1944, à la Libération, il est arrêté et incarcéré à Digne, puis à Saint-Vincent-les-Forts, pour avoir écrit dans une revue collaborationniste. Il sera libéré le dernier jour de janvier 1945, sans avoir même été inculpé, le dossier étant totalement vide. Le ton est tout autre dans les œuvres de l'après-guerre, telles Un roi sans divertissement ou Le hussard sur le toit. La nature s'y montre plus hostile. Elle ne parvient plus à faire oublier à l'homme sa condition mortelle, faite de souffrance et d'un ennui existentiel, ce qui le conduit à révéler pleinement sa cruauté foncière. C'est alors le tragique qui ressort. Parallèlement, il s'intéresse de plus en plus au cinéma. Jean Giono décède le 9 octobre 1970, à l'âge de 75 ans. Titus Lelong et Camille. Nouvelles de Jean Giono, issu de Haine Monde et autres caractères, 1968. On a parlé un peu trop rapidement de l'amour. En ce qui concerne l'usage qu'en font les jeunes, il n'y a pas à revenir sur ce qui a été dit. Peut-être trouvera-t-on par hasard un couple qui se regarde d'un air niais en se tenant par le petit doigt. Mais il ne faut pas se fier à la niaiserie. C'est un faux semblant. Elle n'est là que pour la tradition. Ce sont simplement des paisibles qui ne brûlent pas les étapes. Mais au bout de leur petit train, c'est comme pour les autres, la culbute. Par contre, le pays est plein de Philémon et Baucis. Leur histoire est un peu en dehors de la description de l'été. C'est de l'amour le plus pur et qui ne s'exprime pas en une saison. Ainsi, par exemple, pour Titus Lelong et Camille. Il y a une vingtaine d'années, j'allais souvent parcourir ce territoire en tous sens. Il me rappelait les courses des Moors dont j'avais gardé la nostalgie. Je prenais mes quartiers dans un bistrot solitaire à des kilomètres de tout lieu habité. C'était un simple petit jas à un carrefour de piste où, à l'occasion, l'errant pouvait trouver un verre de bière ou de vin. Pour moi, s'ajoutait un frichti pas désagréable, allant de la grive et du pluvier à la saucisse au chou et une paillasse dans un appintis. Camille, qui tenait ce bistrot, était une vieille amie. Elle avait à ce moment 72 ans, mais verte comme un laurier. Elle avait été dans sa jeunesse la plus jolie femme et la plus belle de toute la région. Il n'en restait rien qu'une extraordinaire chevelure noire de jais sans un poil blanc. Elle ne s'était pas mariée. Elle habitait seule. J'arrivais chez elle sans prévenir. 5 fois sur 10, je trouvais toutes les portes ouvertes et personne ne répondait à mes appels. Je connaissais la musique. Je descendais à l'étable et j'y trouvais ma Camille, ivre morte, inconsciente, couchée sous les pieds des vaches dans la bouse et le purin. C'était une personne corpulente. Je me bornais, c'était d'ailleurs tout ce qu'il était possible de faire, à la tirer par la jambe ou le bras loin des bestiaux. Pour le reste, j'avais la marche à suivre. Je montais à sa chambre et, si c'était le jour, je suspendais un torchon blanc à l'espagnolette du volet. Si c'était le crépuscule ou la nuit, j'allumais une bougie ou une lampe à pétrole que je plaçais derrière la vitre. Il n'y avait plus qu'à attendre. Il fallait attendre au moins 1 heure, et par mauvais temps beaucoup plus. Celui qui venait, venait de loin, et ce n'était plus un jeune homme. Titus, dit Lelong, 78 ans à l'époque, il répondait à l'appel par n'importe quel temps. Une fois, ce fut par un vent à décorner les bœufs, et l'expression n'était pas trop forte. Il fit les derniers 100 mètres à crête-prête, après avoir été renversé plus de 10 fois le long du chemin. Il arrivait, me voyait, et il comprenait tout de suite. À deux, nous pouvions emporter Camille et la monter à sa chambre. Il prenait toujours la tête, et moi les jambes. Nous étendions la soularde sur le plancher, et nous descendions à la cuisine pour faire chauffer de l'eau. Quand l'eau était chaude, j'aidais Titus à monter la bouilloire, le baquet et le savon. Après, je le laissais seul. Ça le regardait. C'était son affaire. Il ne me rappelait que lorsque Camille était lavée du haut en bas et qu'il lui avait passé du linge propre. Nous réunissions de nouveau nos forces, il les fallait bien toutes les deux, pour coucher la corpulente vieille dame. Elle était blindée à un point qu'elle ne se réveillait même pas pendant tout ce trafic. Au mieux, elle grommelait. Il la bordait et nous retournions à la cuisine. Nous avions, Titus et moi, de longues conversations. On l'avait surnommé Le Long, non pas à cause de sa taille. Il n'était pas grand, plutôt raplot et le cou enfoncé dans les épaules, mais parce qu'il mettait un temps infini à faire les choses. Ce qu'un homme balhabile faisait en 2 heures, lui, très habile en tout, y employait 2 jours. Et ainsi pour tout. C'était le fils de Titus le Manchot. Ce manchot avait 2 bras. Il avait gagné son surnom en portant constamment sa veste sur ses épaules sans jamais en enfiler les manches qui ainsi ballottaient vides de chaque côté de lui. D'où le manchot. Il n'en faut pas plus. Ce manchot avait épousé un sac d'or. Léa, la fille unique des Romuald, bien connue pour être à la fois des sauvages et les propriétaires de la bonne ferme de Roquette. De Léa, le manchot eut 2 enfants. L'aîné, une fille, Adonise, et le cadet, notre fameux Titus le Long. À la mort du manchot, Adonise était déjà depuis 5 ans la femme de Paul-Émile, l'épicier de Bannon. Il y eut un arrangement entre frères et sœurs à propos de Roquette que Titus le Long exploita seul. Il n'était pas marié. Léa mourut peu après. Roquette est une ferme importante. Jase pour 100 moutons, vaste écurie avec mangeoire pour plus de 6 chevaux, grange en conséquence, bâtiment d'habitation avec au moins 20 ou 25 pièces ou réduits, et des hectares qui ne signifiaient pas grand-chose, étant de la sauvagerie pure et simple, mais des bois dont on pouvait tirer parti en cas de besoin. Le Long se cantonna dans une pièce du rez-de-chaussée. Il réduisit son exploitation à ce qu'il pouvait faire sans l'aide de personne, puis finalement, il se contenta des ressources que pouvait lui fournir l'élevage de 50 brebis. Il faut dire qu'en quelques années, il était passé maître dans l'art de vivre en économie fermée. C'était l'époque où, à 5 kilomètres de là, Camille était comme un printemps dans sa fleur. Pas mariée, elle non plus, enfin pas mariée devant monsieur le maire. La vie de Camille a été exceptionnelle. Elle préféra sa liberté à la vie de famille. Dans un pays où les plus virils s'entourent de 1000 fortifications de tout bois, c'est une décision plus héroïque que celle du Cid Campeador. Son caractère éclatait dans le bleu, on ne peut pas l'appeler autrement qu'adamantin, de ses yeux et ses cheveux ailes de corbeau qu'elle a gardés noirs, sans mélange, jusque dans sa plus extrême vieillesse. Belle, bien faite, et bien faite suivant les canons paysans qui exigeaient du répondant, solide, elle était au surplus jolie, c'est-à-dire à la mesure humaine. Elle avait beaucoup de galants, elle ne faisait pas beaucoup languir ceux qu'elle choisissait. Son choix pouvait être extravagant. Il eut à un moment donné un scandale dont je ne peux pas parler, mais qui secoua jusqu'à l'évêché. Entraîné par la description de sa beauté et de ses conséquences, j'ai oublié de dire que Camille, orpheline de bonheur, fut élevée par un oncle qui, vraisemblablement, la déniaisa le moment venu et finalement la laissa héritière d'un bon lot. Elle n'avait pas trop à se soucier de l'avenir, à condition, bien entendu, de mener la vie qu'on mène ici. Ça ne la gênait pas. Elle savait faire petit, sauf en ce qui concernait sa liberté. Elle pouvait se nourrir pendant des mois d'huile, de sel et de pain, à condition de pouvoir s'offrir le bon temps qui lui plaisait. Dès le début de mes conversations avec Titus le Long, il ne me cacha pas qu'il aimait Camille depuis plus de 60 ans. Il me déclara également tout de suite qu'il n'avait jamais rien demandé et jamais rien reçu. ce n'était pas par timidité. Quand les hommes se battaient autour de Camille, il allait se battre lui aussi. Mais vainqueur, ça lui arriva trois fois, il rentrait à Roquette. Il laissait le vaincu profiter, s'il le pouvait encore. Car c'était de vraies batailles de mal. Un lundi de Pâques, ils se mirent à quatre pour lui casser le bras. Un soir, il fut assailli brusquement à 100 mètres de chez lui par des bouscatiers qui le laissaient pour mort, les bras en croix sur son air. Mais il se souvenait de têtes qu'il avait cassées, notamment à l'époque du scandale. Il m'avoua que, à ce moment-là, il aurait volontiers tué. Le favori était d'une autre essence et ne participait pas aux batailles. Ses mâles se battaient alors pour Camille, comme on se bat pour le tsar. Puis le type d'une autre essence fut changé de paroisse, et le vieux tour de garde des galants de Camille continua, comme à l'habitude. Fierté, évidemment, du côté de Titus le Long. Il rencontra à Somane un de ses cousins, ancien sergent de colonial. Celui-ci lui apprit des tours, notamment à se servir de ses pieds, une sorte de savate, moitié escrime à la baïonnette, moitié boxe, moitié tout ce qu'on voudra, mais qui faisait merveille. Les pieds entraînés en branle, à des moments bien précis, et écrasés exactement ce qu'il fallait écraser. C'était d'une efficacité à tout casser. On commença à le craindre. Il ne faisait pas le vide autour de Camille, puisque dès qu'il avait le dos tourné, on sautait dans son lit, et il le savait. Il se battait pour se battre. Fierté. Il semble bien qu'à l'époque de toutes ces batailles, Titus ait juché l'amour qu'il avait pour Camille à des hauteurs faramineuses. Peut-être se mentait-il à lui-même, mais il restait fidèle à son mensonge. Quand les bas morceaux le tracassaient un peu trop, il allait rendre visite à la veuve au drapeau tricolore. Sa sœur essaya de le marier. Il résista. Elle insista. Elle vint glousser à Roquette. Une si grande maison était faite pour une famille. Elle avait un choix de filles tout près, certaines pas mal et avec des avenirs. Titus entreprit aussitôt de réduire les bâtiments de la ferme à sa mesure. Il enleva les 4/5 de la toiture, ne la laissant subsister qu'au-dessus de la pièce qu'il habitait. Les intempéries se chargèrent en quelques mois de faire du reste une ruine. Des sureaux et des orties envahirent la chambre où Titus le Manchot était mort et celle où Titus le Long était né. Là, on vit bien qu'il était fier. Était-il jaloux? Quand je posais la question, il mâchait un long moment ses moustaches. Oui. Mais un jour, il se décida d'aller à Marseille. Autant dire les antipodes. 1 heure à pied, 3 heures de car, 4 heures de train. Pourquoi Marseille? Parce qu'il voulait acheter une longue vue. Pas des jumelles. Une longue vue télescopique semblable à celle qu'on voit entre les mains de l'amiral de Villeneuve à la bataille de Trafalgar. Il avait la gravure chez lui. Un jour, il me montra ce qu'il appelait encore, suivant la vieille formule, sa lunette d'approche. C'était un magnifique instrument, à l'état de neuf tellement il avait été soigné et qui avait dû coûter les yeux de la terre. Télescopé, il tenait dans une boîte ronde en cuir qu'on pouvait porter en bandoulière. Au début, de Roquette, il ne pouvait pas voir la maison de Camille. Il lui fallait grimper sur un faillard pour dominer des bois taillis. Il aurait passé ses journées dans le faillard. Il entreprit de creuser une tranchée dans le taillis. Le taillis, c'était du chêne blanc. Il passa des mois à ce travail. Il coupait les arbres sur 3 mètres de large et droit vers le but comme on fait aujourd'hui pour faire passer une ligne de force à travers la forêt. Il n'eut ainsi plus besoin de monter sur le faillard. Il pouvait surveiller Camille en restant assis devant sa porte de sa maison. L'été, et d'à côté de sa cheminée, l'hiver. Surveillé gratuitement d'ailleurs. L'époque des batailles était passée. On venait chez Camille en tout bien tout honneur. Titus se bornait à compter les visiteurs à la longue vue, ce qui, me dit-il, ne le faisait pas souffrir outre mesure. J'ai essayé de comprendre cette indifférence. Elle s'explique. Dans nos conversations autour du poêle, pendant que Camille cuvait son vin dans des draps blancs, Titus m'a répété souvent. Personne ne pouvait me l'apprendre. Vous le voyez, c'est moi qui l'ai, et je la garde. Il ne la voit pas telle qu'elle est. Il la voit telle qu'il veut qu'elle soit, ni la belle brune, ni la pauvre soularde. La belle brune était impossible à tenir en lisière, même à coup de fusil, ou alors c'est sur elle qu'il aurait fallu tirer. Titus n'est pas de ceux qui tuent ceux qui l'aiment. Comme il est généralement admis que tout le monde le fait, peu ou prou, le pays est si pauvre ici qu'on ne détruit rien, ni ce qu'on aime, ni ce qu'on déteste. On garde tout, tant bien que mal, car on sait qu'un beau jour, on peut avoir besoin de tout. Il a composé. Avec Camille, il se donnait des joies et des peines. Peine pour avoir des joies, joie pour avoir des peines. Et c'était si bien qu'il y a occupé toute sa vie. La pauvre Soularde, il ne la voit telle qu'elle est, roulée dans son purin qu'au moment où il sait qu'il va, avec de l'eau chaude, des draps propres, du linge frais et de l'amour, la rendre telle qu'il veut qu'elle soit. Et personne ne peut plus la lui prendre. La lui a-t-on jamais prise? L'allée cavalière, l'allée de la lunette d'approche qu'il a tranchée dans les taillis, il y a plus de 40 ans, a toujours été soigneusement entretenue. Rien n'intercepte le regard entre Roquette et la maison de Camille. À Roquette, sur l'appui de la fenêtre, un petit châssis de bois scellé supporte la longue vue. Ce n'est plus pour compter les galants qu'elle est là. C'est pour guetter l'apparition du torchon blanc à l'espagnolette du volet ou l'éclat de la lampe derrière les vitres. Je continue à en parler au présent. Et cependant, il va y avoir 3 ans que le petit d'Adonis et de Paul-Émile a emporté sa lunette. Titus est mort au beau jour. Heureusement, car il a été ainsi trouvé tout de suite par le berger de Villars. Camille est morte le lendemain. J'ai eu la naïveté de demander de quoi. On m'a répondu, car on n'est pas naïf, qu'elle était morte de mort. Ce qui, à la réflexion, m'a satisfait. L'allée de la lunette d'approche se remplit d'arbres neufs. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.